17e édition du Festival du Livre et de la Presse d'écologie, Felipe 2019. Amazonie, menaces et résistance. Une rencontre avec Marine Calmé et Kunturumi.
Merci beaucoup d'être venu, d'être ici pour cette dernière table ronde donc du Felipe cette année. Donc une table ronde qui va porter sur l'Amazonie, les menaces qui pèsent sur l'Amazonie et puis les résistances qui animent ce territoire. Pour évoquer ce vaste sujet, j'ai invité ce soir Marine Calmé, qui est juriste, membre de Nature Rights et du collectif Hors de Question. Je la laisserai présenter ces deux entités juste après. Et puis Kunturumi, qui est un jeune autochtone et qui est membre de la Nation Quechua et qui est ici parmi nous en tant que messager. Je vais lui laisser la parole tout de suite pour nous expliquer ce que c'est et ce que ça représente ici.
Merci. Bonjour à tous. Alors, je parle français et aussi espagnol, et un peu ma langue, le Quechua. Nous sommes les descendants du territoire des Incas, qui est présent dans le littoral, dans les montagnes de la Cordillère des Andes et en Amazonie. Tout ce qui se passe en Amazonie nous impacte directement à nous, notre peuple, puisque nos rivières coulent depuis les montagnes dans le versant amazonien. Alors, je vais vous parler sur nos traditions, sur la résistance de nos populations, comment nous voyons le monde, qu'est-ce que nous pouvons dire à les personnes d'ici, en Amérique principalement, où est-ce que nous avons gardé nos traditions ancestrales, nous disant que nous sommes le monde des vivants. On nous appelle aussi les grands frères, parce que nous avons réussi à garder des traditions et des protocoles sacrés. Tout est sacré. Donc c'est ceci qu'on essaie d'importer ou de faire comprendre ici à le peuple d'Europe, l'importance du mot sacré, l'importance des territoires qu'on doit de préserver. Car chaque lieu, chaque endroit, chaque rivière, chaque montagne a un esprit. Tu veux parler ? Ici, en Europe, depuis quelques années déjà, il y a beaucoup de personnes qui essayent de se reconnecter avec leurs traditions perdues ou un peu oubliées, comme des traditions celtiques ou d'ailleurs. Principalement, ces personnes-là viennent chez nous, en Amérique, en Amazonie, ou un peu partout dans le territoire d'Amérique du Nord aussi, viennent pour comprendre, pour se aligner avec leurs ancêtres. Et nous avons cette clé que nous pouvons apporter ici à les populations pour pouvoir s'aligner avec eux-mêmes, se comprendre à eux-mêmes, et comme ça protéger les futures générations et la Terre. Le mot sacré et le mot spiritualité est très important, parce que chez nous, nos populations, même qui sont en manque de spiritualité, sont désorientées. On a toujours besoin d'un aîné, une personne sage qui vient pour calmer. La tension est pour diriger les personnes. Donc, c'est là avec un grand enthousiasme que je vous invite parfois à des cercles que nous organisons à Paris avec des populations autochtones, peu importe la nation en Amérique. Pour nous, l'Amérique, le mot Amérique n'existe pas, normalement, dans nos langages. Dans mon peuple, on appelle Amaruca, qui veut dire le grand serpent. Dans d'autres peuples, on l'appelle Abiyala. C'est une connexion entre le nord et le sud. Ce que nous appelons la lignée de l'aigle du nord et le condor du sud. Cette grande connexion qui revient après 500 ans. On raconte qu'il y a très longtemps, chez nous, il y avait des prophéties ou des prédilections qui parlaient au sujet de l'avenue des populations qui viendraient de l'Est. On a appelé ça que la longue nuit arrive chez nous pour désorienter les enfants de la Terre et pour perturber l'écosystème. C'est là que Christophe Colomb est arrivé. Plusieurs aînés, à travers toute l'Amérique, ont caché des secrets ou ont caché des cérémonies pour que 500 ans plus tard, ces cérémonies et ces secrets puissent se mettre à jour et être vus par tout le monde. C'est ce qu'on appelle le retour des ancêtres. Donc, les retours des ancêtres, c'est le retour des futurs gardiens ou guerriers de la Terre pour protéger les futures générations contre quelque chose qui arrive. Et nous disons que les peuples européens qui ont transmis ou qui, par l'histoire du passé, par les invasions, ont donné leur feu à les populations. Et par le feu, ils ont quitté les traditions de ces peuples-là. Nous disons que nous, les peuples américains ou le peuple d'Amarouk, hein, nous sommes le peuple rouge, le gardien de la terre. Et que les peuples du feu, les Européens, ont donné leur feu à nos peuples et nous ont quitté nos terres. Et c'est justement de ça qu'il en est question. Il est question de retrouver cet équilibre. Et on dit que le peuple gardien du feu, pourquoi il a donné son feu à toutes les populations? Pourquoi est-ce qu'il a causé du mal à travers le monde entier? C'est parce que l'un des aînés des quatre couleurs de l'humanité raconte que l'homme gardien du feu s'est levé et est parti. Et donc, un déséquilibre allait arriver. On dit que les quatre couleurs, les quatre peuples, représentent une unité sacrée qui met en action le cinquième élément ou la couleur arc-en-ciel. Quand l'homme du feu, l'homme gardien, l'Européen, est revenu s'installer à la table des aînés, est revenu s'installer pour se préoccuper sur le sort de l'humanité, c'est là qu'on dit que maintenant nous sommes tous un. Nous sommes tous devenus un. Et en ce temps-là, nous allons travailler ensemble pour pouvoir défendre la nature. Après, je parlerai plus, je pense.
D'accord. Je me présente rapidement. Donc, je suis Marine Calmé, membre du collectif Hors de Question, porte-parole pour l'Hexagone. Le collectif Hors de Question s'est formé pour répondre au projet Montagne d'Or et pour lutter contre l'implantation de l'industrie minière aurifère en Guyane française. Pour rebondir un peu justement sur ce qui vient d'être dit, la Guyane française, ça appartient à la France depuis pas si longtemps que ça. C'est un territoire sur lequel on s'est implanté, notamment pour venir chercher de l'or, mais aussi pour extraire à peu près toutes les richesses naturelles. On y a aussi envoyé nos bagnards pendant très longtemps. C'est un territoire de souffrance. Et c'est 8 millions d'hectares de forêts qui sont aujourd'hui mis en danger, justement, puisqu'on parle de menaces et de résistance, en danger directement, non seulement par l'industrie aurifère légale, mais aussi par l'industrie aurifère illégale. Puisque on en a parlé, il y a ce projet Montagne d'Or. Le projet Montagne d'Or, c'est une mine d'or à ciel ouvert de 2,5 km de long et de 400 mètres de large qui est prévu par le consortium Montagne d'Or, un consortium russo-canadien qui est prévu à 140 km de Saint-Laurent-du-Maroni au milieu de la forêt guyanaise. Et on s'est beaucoup battu depuis 2 ans déjà pour que ce projet arrive justement dans l'espace public, déjà qu'on en parle, parce que malheureusement, on ne parle pas très très souvent de nos territoires d'outre-mer et pas souvent non plus de la Guyane française. Et ce qu'au départ, M. Emmanuel Macron considérait comme un très bon projet pour le territoire a finalement, heureusement, été écarté, en tout cas pour le moment, on l'espère, non seulement parce qu'il ne respecte pas les contraintes environnementales applicables sur le territoire, ni les objectifs en matière de protection de l'environnement, de la biodiversité, mais aussi parce que tout simplement plus personne n'en veut sur ce territoire. Et moi, personnellement, si je me suis engagée contre ce projet, c'est parce que c'est vraiment l'exemple phare et le symbole de tout le colonialisme qu'on fait encore subir à ces territoires d'outre-mer 300 ans après la découverte de ce qu'on appelle l'Amérique, mais comme tu l'as bien précisé, le nouveau continent, c'est que pour nous qu'il est nouveau, pas pour les peuples qui y vivaient avant qu'on y arrive. Il faut savoir qu'en arrivant en Guyane française, on a décimé 90% des peuples autochtones qui étaient présents sur ce territoire, qui restent 6 nations aujourd'hui autochtones, et que sur ces 6 nations, il y a énormément de problèmes, notamment liés à leur paillage illégal. C'est, finalement, l'or, c'est vraiment le fléau de la Guyane. On estime qu'environ il y aurait environ 15 000 orpailleurs illégaux présents sur le territoire français et qui se livrent du coup au pillage des ressources naturelles et notamment parce qu'il y a évidemment le pillage de l'or, mais il y a aussi le braconnage qui va avec la déforestation qui est une conséquence immédiate. Et donc, je vais te repasser la parole et puis je rebondirai peut-être après sur ce que tu dis.
Alors, ce projet de Montagne d'Or, j'entends parler de nos frères Kalinas, les Wayana et les autres, les Tekos aussi. Pour eux, ça les impacte. Puis pour nous aussi, parce que c'est une alliance entre les peuples de gardiens de mère nature. Peu importe le projet qui soit, d'où il vient, c'est toujours un problème pour nous autres, parce que ça dérange l'écosystème. Et vous savez, dans l'écosystème, il n'y a pas de frontières. Les animaux qui vont d'un tel territoire à un autre, c'est une importance capitale, même pour des territoires qui sont présents dans le nord canadien aussi, pareil. Donc, voilà, donc c'est ce que j'entends parler sur le projet Montagne d'Or, c'est quelque chose de totalement mauvais, que je demande à Monsieur Macron et à ses acolytes de réfléchir un peu sur les impacts écologiques et sur les impacts et aussi les traumatismes, bien entendu, avec les populations. Il faut savoir que nos peuples ont beaucoup souffert dans le passé. Et ces traumatismes se répercutent encore aujourd'hui. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la paix et la tranquillité. Ils ne font du mal à personne. Ils sont justement là pour apprendre à se reconnecter avec la nature et se reconnecter avec soi-même. C'est ça qui est très important.
Je te demandais de présenter un peu plus ce projet de Montagne d'Or parce que donc je fais un petit incise. Moi, j'ai découvert ce projet en lisant ce numéro de la revue Z. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas encore. Il est présent dans la librairie, évidemment. Donc, la revue Z, c'est une revue d'enquête itinérante, militante, critique de sciences sociales. L'équipe se déplace sur des terrains où ils enquêtent sur plusieurs mois, ils rencontrent les acteurs et voilà, ils font tout un numéro. Il y a un numéro sur Marseille, un numéro sur Toulouse, un numéro sur Paris et un numéro donc sur la Guyane française. C'est brillant, ce qu'ils font, c'est très beau. Il y a des illustrations magnifiques, etc. Je ne vais pas tout vous présenter, mais franchement, je vous invite à aller regarder ce qu'il y a dedans. Et donc, ce numéro sur la Guyane française, donc, qu'on appelle comme on veut, mais ils interrogent notamment ce terme qui est assez triste, présente le projet Montagne d'Or et le collectif Hors de Question. C'est aussi comme ça que j'ai pris contact avec Marine. Il se trouve qu'il y a une des perspectives qui me semble très intéressante dans cette lutte, c'est que plusieurs acteurs se sont retrouvés avec des registres de lutte et de résistance et des points où ils se sentent attaqués et des manières de lutter contre cette attaque très différentes. Et donc, par exemple, les peuples autochtones se sont alliés avec des personnes qui étaient à l'origine des colons, qui se sont finalement retrouvés menacés aussi par ce projet de Montagne d'Or, et qu'ensemble, il y a eu la construction d'un registre commun de lutte. Et ça, ça m'a semblé super intéressant, et ça rejoint ce que tu disais, de dire, en fait, nous, on a des cosmogonies qui sont très fortes, qui viennent du passé, et dont on hérite, et dont on peut se servir, et qu'on peut vous apprendre à réinvestir aussi pour donner du sens à nos luttes, etc. Voilà, je profitais de ce moment, ça me semblait faire sens pour présenter ça et dire que c'est donc une lutte qui a réussi à rassembler des acteurs qui ont des registres très différents. Et voilà, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous voulez en dire plus là-dessus, mais et ça fait aussi un lien peut-être du coup avec l'orpaillage illégal dont tu as parlé, qui rassemble des dynamiques très compliquées parce que donc, c'est illégal, c'est dévastateur pour l'environnement, mais c'est aussi un moyen de subsistance pour des personnes qui sont très précaires socialement. Et du coup, comment faire pour proposer autre chose que ça et pas seulement interdire sans rien proposer d'autre, quoi. Voilà.
pour expliquer ce qui s'est passé sur le territoire, en fait, c'est vrai que ça a été assez dingue dans le sens où on avait donc des peuples autochtones qui se sont alliés avec des créoles qui, en fait, en réalité, se parlaient jamais. Et puis des blancs comme moi et d'autres blancs présents sur le territoire. Et en fait, on n'a pas essayé de unifier ou d'homogénéiser notre discours, mais chacun avait bien son discours et sa voix à porter, et tout le monde a respecté celle des autres. Les autochtones étaient en première ligne, car c'était eux les premiers concernés. Et derrière, on avait les créoles et encore les blancs. Nous, on assurait plutôt justement essayer d'apporter des outils plutôt scientifiques, parce qu'on s'était tapé évidemment tout l'étude d'impact et qu'on avait lu tous les rapports scientifiques sur la question, et qu'on avait essayé justement d'obtenir plus d'informations, notamment grâce à Ingénieurs sans frontières qui a fait un énorme travail d'assistance pour qu'on comprenne, parce que ces projets de mines industrielles, c'est très très éloigné évidemment de tout ce qu'on vit au quotidien. Et donc on s'est alliés et on a marché ensemble, et ça, c'était vraiment une énorme force. C'était jamais arrivé sur ce territoire. Et c'est ce qui a fait aussi que je pense qu'on a eu autant de succès au final. Surtout, en fait, c'est quelque chose que je reproche pas mal à l'écologie, c'est qu'on essaye beaucoup d'harmoniser et d'unifier nos messages, alors qu'en fait, c'est très colonial de procéder de cette façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une forme d'écologie qui serait applicable sur tous les territoires. Ça n'existe pas. L'écologie, c'est le respect des écosystèmes avant tout. Et chaque écosystème, s'il veut être résilient, il doit être adapté à son environnement. Donc ça ne fait aucun sens d'appliquer une écologie qui serait à un seul visage. Il faut que l'écologie, elle ait énormément de visages. D'ailleurs, je vous invite à lire le bouquin de Malcolm Ferdinand sur l'écologie décoloniale qui vient de paraître. C'est un jeune homme vraiment brillant, justement, qui de son passé, de sa vie à lui, justement, parle d'écologie décoloniale. Et je pense que cette écologie décoloniale, elle est applicable aussi bien en Corse, en Bretagne, sur le territoire de l'Hexagone, parce qu'en fait, les luttes, elles ne peuvent avoir un visage humain que quand elles sont incarnées par des autochtones dans leur territoire, et puis des personnes issues des traditions locales, parce qu'une écologie, elle doit nous ressembler avant tout si on veut qu'elle soit vraie.
Là, il y a un exemple très intéressant, c'est que pour nous autochtones, pour ceux qui se réalignent avec leur tradition et leur histoire, chaque pays en Amérique latine, pour nous, c'est un état colonial. Parce qu'on dit qu'il n'y a jamais eu d'indépendance chez nous. Il y a eu juste des émancipations de la part des colons. Ce n'était pas une totale libération qu'il y a eu à l'époque. Donc, il y a eu, nos populations n'ont jamais été reconnues, en fait. Et c'est pour dire qu'on vit sur des limites coloniales. En fait. Ils appellent ça néocolonial, mais nous, on préfère dire que c'est colonial. Et les personnes qui viennent de la capitale ou des grandes villes, en général, ne savent pas qu'est-ce que c'est la cosmovision d'un autochtone. Quand ils voient des autochtones, ils voient soit des sauvages, soit des personnes qui boivent de l'alcool, soit parce qu'il faut savoir aussi qu'on a pas mal souffert donc, dans le passé. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont tombé dans des indépendances. Et que pour que nos peuples se réalignent, ils ont besoin d'écouter les sages et de rentrer dans la spiritualité qui est très importante, justement. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on est sur des territoires coloniales. Et on voudrait totalement décoloniser tout ça. Donc voilà.
Ouais, moi, on a projeté là une carte qui est donc extraite de ce numéro de Z aussi, qui est assez parlante. Peut-être que je voulais pas présenter d'abord, donc c'est un peu la surprise. Mais peut-être présenter plus précisément où se trouvent donc les lieux en Amazonie les plus critiques, les plus menacés, s'il y a des projets, voilà, un peu dangereux. Et ensuite, éventuellement, donner des exemples précis de lutte ou d'action, raconter un petit peu, parce que nous, on est loin, et je pense que c'est un, On a encore l'image du lointain un peu fantasmé, que ce soit dans les luttes ou les menaces, mais à chaque fois, on est très loin. Donc, si vous pouvez donner des points un peu précis des dernières luttes ou des dernières menaces aussi, ce qui se passe.
Merci. Alors, comme les luttes, donc nous disons que ça fait déjà 500 ans de lutte et de résistance. C'est pas fini, mais on espère qu'un jour ça se termine. Donc, par exemple, nous avons des luttes principalement. Donc, dans mon territoire, je suis Quechua. Donc, nous avons des luttes aussi à Cusco pour la construction du nouveau aéroport à Chinchero, qui va contaminer le fleuve sacré, l'Urubamba, que pour nous c'est aussi un gros problème. Dans le territoire aussi à Chaninka, il y a certaines divisions, parce qu'il y a des chefs à Chaninka, entre le Pérou et le Brésil, qu'ils ont préféré recevoir l'argent de l'État, quoi, pour vendre des territoires. Et donc, du coup, d'autres à Chaninka sont un peu en colère. Donc, il y a pas mal aussi de résistance à ce niveau-là. Dans les territoires aussi de l'Équateur, il y a aussi en Amazonie, principalement dans la région de Pastaza, où se trouvent les Sarayaku, se trouvent les Chouars, et tout le reste. Il y a pas mal de problèmes aussi liés au gouvernement qui veulent exploiter leur or, exploiter le pétrole. Donc, en Colombie, c'est pareil. Il y a aussi des conflits dans le territoire des Nazca, qui se trouvent chez les Inga. Ce serait plutôt le côté ouest de la Colombie. Donc, il y a aussi des populations qui gardent et qui préservent justement leur forêt. Mais le gouvernement colombien est un gouvernement très, très intimidant. Donc, il y a pas mal de chefs qui sont assassinés. Ouais, c'est dommage. Et justement, je parlais avec un des chefs, avec un chef Inga. Son nom, je ne me rappelle plus. Mais quand je parle avec lui, parce que lui, il était venu pour parler avec les peuples d'ici, pour avoir de quoi faire bouger les choses. Et quand on parlait, lui et moi, il me disait, je parle de tout ça ici, mais à vrai dire, je n'ai pas vraiment confiance en les gens d'ici. Parce qu'on souffre beaucoup chez nous. Et il m'a dit, les métis, chez nous qui sont vraiment déracinés, bah, ce sont eux qui nous attaquent, ce sont eux qui nous insultent. Et je ne peux pas avoir d'amour pour eux. Et je voyais que lui, il avait beaucoup de responsabilités. Mais en même temps, il avait les épaules très lourdes de tout ça. Et on voulait l'aider, on voulait le présenter d'autres personnes, d'autres aînés, pour qu'ils puissent l'aider à pouvoir alléger ses peines et sa souffrance. Pour que vous compreniez un peu à quel point les populations sont pressionnées, limite opprimées. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de lever de la conscience de pas mal de gens. C'est en touchant chaque personne, qu'il soit un citoyen ou voilà, peu importe d'où il vient, chaque personne peut faire la différence. Nos populations n'ont pas vraiment confiance à ceux qui sont venus pour signer des traités dans le passé. Parce que nous voyons à chaque fois le même cycle vicieux qui se refait. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec une délégation de chefs d'Amazonie qui sont venus à Paris. On parlait sur, pareil, le territoire, de tout ce qui se passe en Amazonie, tous les problèmes qui se passent au sud, à Mato Grosso, chez les Guarani, Kiawa, chez d'autres populations, les massacres qui sont faits par les ouvriers. Il y a les orpailleurs et aussi d'autres personnes qui viennent dans leur territoire. Ils viennent et à l'aveuglette, ils prennent leur fusil et ils tirent sur n'importe qui. Comme les cow-boys à l'époque. Et ça, c'est un très gros problème. Justement, quand on essaie de parler à ces personnes-là, ou quand eux essaient de parler à ces personnes-là, en général, ces personnes ne veulent pas comprendre, ne veulent pas entendre. Et il y a aussi une désinformation. C'est-à-dire, la désinformation, c'est que dans chacun de nos pays, on veut nous faire voir comme quelque chose de touristique, quelque chose de folklorique, mais c'est tout. Pas aller plus en profondeur. Comprendre notre cosmovision, comprendre qui nous sommes et l'impact que nous pouvons avoir pour le reste de l'humanité. Parce que nous sommes les gardiens de cette terre. Il est de la responsabilité de défendre la terre. et de défendre ainsi toutes les futures générations de toute l'humanité. Donc, aussi, tous les problèmes qu'il y a eu, il y a aussi, pas longtemps, il y a eu un homme qui est mort, un homme Guajajara, je ne sais pas si tu connais son prénom, mais il a été pareil, il a été assassiné lâchement par des personnes, et on pense que ces personnes-là ont un rapport avec des hommes de l'État ou du gouvernement directement brésilien qui est venu pour faire ce massacre, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses internes, des choses cachées, qu'on ne nous dit pas, mais on a une petite idée de ce qui se passe, en fait. Donc, voilà, et si je pourrais parler aussi de mes frères, si on s'éloigne plus du Nord, si on va plus dans le territoire Mapuche, en ce moment, il y a un éveil chez les Mapuche du Chili, un éveil où est-ce que toute la population au Chili se rend compte qu'en eux, il y a environ 80% de sang Mapuche. Il y a une grande, je pourrais dire comme révolte, ou éveil de la conscience au Chili pour que les personnes reviennent sur leur culture, reviennent sur leur identité. Et quand je parlais avec des aînés Mapuche la semaine passée aussi, ils me disaient que c'était comme important qu'il se passe ce qui est en train de se passer. Que c'est triste de voir les personnes qui meurent, les personnes qui sont assassinées, mais quelque part, la terre a tellement souffert que la terre a demandé du sang. Et qu'il fallait vraiment calmer sa colère par tout ce qui se passe, en fait. Et ça a éveillé pas mal de conscience. Là, nous sommes entrés dans un temps d'éveil de la conscience que nous, le peuple Inca, nous appelons ça le troisième millénaire, le temps du septième soleil. Tu veux dire peut-être quelque chose? Après, je parlerai plus en profondeur. Alors, si je peux vous parler un peu de... En fait, dans tous les territoires, il y a des résistances. Hein. si on pourrait vous expliquer chaque nom de chaque ethnie, il y a quelque chose à raconter. Vraiment. Parce que du moment que les personnes déracinées, on ne dit pas vraiment l'homme blanc, on dit plutôt la personne qui a perdu son esprit. La personne qui a perdu son esprit, qui est venue pour commettre du mal, d'abord il se commet du mal à lui-même, et ensuite aux autres. Et ces personnes-là, on dit que leur enfant, un jour, comprendra. Et chez les orpailleurs ou les colons d'autrefois, il y a certains de leurs enfants qui se sont alignés dans les temps futurs avec les autochtones. Alors, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Mais ça se passe. Et on dit aussi que viendra un moment donné où est-ce que... Ce que justement, qui est très important de dire, c'est que quand il y a eu le génocide en Amérique, au début du temps de la colonisation et même après, quand nos populations tombèrent, nos populations ne rentraient pas dans cette colère, dans cette amertume de vouloir du mal à l'autre. Nos populations disaient, on tombe maintenant, mais on reviendra dans le futur. On reviendra dans le corps de ceux qui nous ont fait du mal. Et on dit que leurs enfants, soudainement, se laisseront pousser les cheveux, et qui reviendront sur des pratiques très anciennes. Et on parle justement de ce temps-là, quoi. De le temps où est-ce que on dit que à l'Est, c'est-à-dire en Europe, il y a un vent nouveau qui souffle. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment à la recherche dans tout ce qui est l'écologie, dans tout ce qui est la préservation des rivières. On dit que c'est eux la réponse de nos ancêtres, que c'est nos ancêtres qui sont venus pour leur parler, et qu'ils sont entrés dans leur cœur et dans leur esprit. Parce qu'il est important de parler de le cœur, qui représente le féminin, et l'esprit qui représente le masculin. Ça doit être une connexion entre les deux.
Merci. Chez les Kalinia, les blancs, c'est les mauvaises entrailles de la mer. C'est comme ça qu'ils désignent les blancs qui sont arrivés en Guyane française, forcément.
Je vais dire un petit mot. Chez nous, on dit que l'homme blanc, bon, avant on disait que c'est comme les montagnes dangereuses. On dit que les montagnes où il y a la neige, donc Yurak, c'est eux, en fait. Voilà.
En fait, je pense que tu as abordé la question aussi, du coup, à travers ça, de la solidarité, des liens qui doivent se faire entre nous. Je suis membre de deux associations qui travaillent au sein de ce qu'on a appelé l'Alliance globale de la Terre-Mère, enfin, des droits de la nature. C'est un mouvement, un réseau international d'acteurs qui se mobilisent un peu partout pour faire reconnaître des droits à la nature dans le monde. Ce mouvement, il est notamment parti d'Équateur, avec du coup l'écriture et l'inscription dans la constitution équatorienne des droits de la nature. Et ce mouvement, donc cette alliance pour les droits de la nature, elle organise régulièrement, depuis quelques années déjà, des tribunaux où justement on utilise, enfin c'est des tribunaux citoyens dans lesquels on montre des cas de violation des droits de la terre-mère. Et il y a beaucoup, évidemment, malheureusement, de cas qui viennent d'Amérique latine, notamment de Bolivie, mais d'Équateur aussi, hein, souvent, malheureusement, et d'Argentine, du Chili. Et beaucoup d'autres qui viennent un peu partout dans le monde, en Espagne aussi, avec les nappes phréatiques qui sont vidées par l'agriculture intensive. Énormément de cas, en fait, qui s'illustrent un peu partout dans le monde. Ce mouvement, en fait, il tend à reconnaître des droits à la nature parce que reconnaître l'interdépendance qu'il y a justement entre les humains et les non-humains à travers un nouveau système juridique. En Colombie, on a eu, par exemple, parce qu'on parle de résistance, alors voilà, en Colombie, justement, grâce à ça, il y a des combats qui sont gagnés. On a reconnu devant le juge administratif, après une longue bataille, les peuples qui vivaient sur le fleuve, qui vivent toujours d'ailleurs sur le fleuve Atrato, qui étaient victimes directement de leur paillage illégal et de la pollution au mercure, ont obtenu une victoire devant les tribunaux colombiens. On les a reconnus comme gardiens du fleuve Atrato et on a obligé, grâce à ça, l'État à prendre des mesures à court, moyen et long terme pour lutter efficacement contre leur paillage illégal et donc pour les droits des écosystèmes. En Colombie, toujours, il y a eu aussi un combat qui a été mené par 26 jeunes pour voir reconnaître les droits de l'Amazonie colombienne. Ils ont réussi, ils ont gagné d'ailleurs. Et en plus de ça, le juge est allé même plus loin. Il a reconnu l'obligation pour l'État d'écrire avec les populations locales ce qu'il a appelé le pacte intergénérationnel pour l'Amazonie colombienne, un pacte qui doit reconnaître le principe d'interdépendance avec l'Amazonie et le principe de solidarité avec les générations futures. Pour vous dire, en fait, on a encore beaucoup de choses à explorer en termes de solidarité, en termes de renouveau en fait, des pratiques juridiques, des pratiques sociales, du contrat social qui nous unit. On se bat énormément contre des projets extractivistes, comme tu l'as montré, beaucoup de projets de mines, beaucoup de projets de déforestation. Mais il y a des combats qui sont gagnés grâce à ces peuples qui se lèvent. Il y a deux exemples qui me semblent assez importants à citer. C'est le Salvador, qui est devenu le premier pays à interdire toutes formes de mines de métaux sur son territoire. Et le Costa Rica, qui est aussi devenu le premier pays à interdire les mines d'or à ciel ouvert. Donc un exemple assez important pour nous qui luttons en Guyane française contre le projet Montagne d'Or. Je pense que voilà, on est en face à une prise de conscience. Malheureusement, il a fallu beaucoup de temps, alors que l'histoire de l'Amérique latine, c'est un peu l'histoire de l'échec justement de ce grand rêve extractiviste qui a vendu au peuple l'idée que grâce aux mines d'or, grâce aux ressources du sol, on allait amener la richesse de ces peuples, amener le bien-être. Et en fait, c'est tout l'inverse, c'est l'esclavage de la terre et l'esclavage des humains qui ont subi ces mines et cet extractivisme. Donc aujourd'hui, en France, je pense qu'on doit montrer l'exemple. On doit montrer aussi peut-être d'autres chemins qui sont adaptés chez nous. Personnellement, je travaille avec Valérie Cabanès, qui travaille sur la reconnaissance du crime d'écocide. On demande la reconnaissance en droit français de l'inscription des limites planétaires dans notre constitution ou dans nos lois, pour appliquer de nouveaux systèmes juridiques, des systèmes qui reconnaîtraient intrinsèquement les seuils à ne pas dépasser, justement, pour revenir sous un seuil de tolérabilité pour notre planète. Ce travail, il est élaboré avec des parlementaires la semaine prochaine. Mardi, on a rendez-vous justement devant la commission des lois pour parler justement de comment est-ce qu'on inscrit les limites planétaires dans le droit français. Et ça sera discuté à l'Assemblée nationale en séance publique le 5 décembre. Je vous invite vraiment à suivre ce travail parce que, oui, c'est nul que ce soit le 5 décembre, mais nous, on ne fera pas grève ce jour-là, du coup. Mais en fait, c'est le début d'une réflexion. Ça doit amorcer un départ. Valérie, elle plaide depuis presque 10 ans, justement, sur la question de la reconnaissance du crime d'écocide en droit international pour donner de nouveaux outils à la Cour pénale internationale pour poursuivre les auteurs de crimes d'écocide. Mais en France, on peut aussi être un peu fer de lance et faire avancer les choses pour être un modèle de ce qu'on peut faire de mieux pour justement redresser la barre et faire en sorte que on réaligne nos sociétés avec les lois du vivant et avec finalement la préservation des écosystèmes. On se rend bien compte aujourd'hui qu'on est à une rupture sociale, une rupture écologique, et qu'il faut instaurer de nouveaux systèmes de solidarité avec les peuples, mais aussi avec les non-humains qui subissent les conséquences de nos activités et des pressions qu'on leur fait subir au quotidien. Et c'est vers ça qu'on va en ce moment, justement. J'espère que ta prophétie va se réaliser et qu'on va rééquilibrer, justement, arriver justement à rééquilibrer les relations entre l'Est et l'Ouest, entre les humains et les non-humains.
J'aimerais dire une chose, c'est pas ma prophétie. c'est des prédilections très anciennes. Chaque peuple a des convergences de prédilections. Par exemple, mon peuple, nous parlons d'un temps après l'alignement, c'est-à-dire après le 2012. Comme nous avons appelé ça le Pachacuti, qui aurait une éveil de la conscience et que de là viendraient plusieurs énergies qui se concentreraient, ces énergies-là, dans l'Est, c'est-à-dire en Europe. Donc il y a pas mal de personnes que nous avons un regard depuis chez nous sur l'Europe, parce qu'on sait que de là viendraient les futurs gardiens de la Terre. On l'espère. Mais quand vous parlez ou quand vous rencontrez des chefs qui viennent ici, même le chef Raoni, si vous le voyez, vous allez regarder dans ses yeux et vous allez voir que lui, il fait tout ce qu'il fait parce que lui, ce qu'il dit, c'est qu'un esprit s'est manifesté plusieurs fois dans sa vie. Il lui a dit, tu combattras jusqu'à ton dernier souffle. Et parfois, on voit dans ses yeux qu'il y a... comment on appelle ça ? Il y a comme... On voudrait déjà que les choses se fassent, que les choses arrivent. Et certains se posent des questions. Puis on dit que si ça ne se fasse pas, on dit que les deux grands serpents, c'est-à-dire le grand serpent des grandes fosses sous-marines qui contournent tous les océans de la Terre, et toutes les chaînes montagneuses, ces deux grands serpents s'éveilleront. La terre tremblera, une nouvelle humanité apparaîtra. Mais il est important que les personnes puissent prendre en considération, et surtout les futures générations qui sont en train de naître là en ce moment, eux vont être ces fameux gardiens, ces fameux guerriers-là. Et il faudra les orienter, bien les orienter. On a envie de faire, parce que c'est précipité, on a vraiment des chocottes, on a peur, que l'Amazonie entière part en fumée. Et ça, c'est un très grand... Il y a beaucoup de prières qui se font suite à ça. Mais nous, on sait qu'en Amazonie, il y a un endroit qui est protégé. Pas protégé par des populations locales, mais qui est protégé par des esprits. Et que personne ne peut y accéder, même pas les mêmes peuples autochtones. Parce que ce sont des sites sacrés qu'on dit que personne ne peut y aller. Et donc, du coup, c'est ça. Et quand j'ai rencontré le grand chef spirituel des Lakota, Alvor de Looking Horse, qui est venu la semaine passée, lui dit qu'il est le 19e gardien de la Chanupa, la pipe sacrée. Mais qu'après lui, il n'y a plus. Et c'est là que c'est très intéressant parce que toutes les prédilections des populations autochtones se rejoignent. Et on dit qu'à un moment donné, on devra prendre une décision. Nous sommes arrivés à un axe du temps où est-ce que l'homme devra méditer à deux choses. Il n'y a qu'un seul chemin. Il y a soit prendre, extirper, voler, avoir du pouvoir, avoir l'ambition, continuer à détruire, ou soit donner de l'amour, partager, être dans le don, la reconnaissance, se méditer et se positionner là. Il faudra choisir entre les deux. Et nous sommes arrivés dans ce temps-là. Je pense que là, ça dit tout.
Merci beaucoup. Ça fait un lien, c'est un petit peu compliqué de faire le lien entre tout ce qu'on se dit, c'est assez riche et dense. Mais tu disais, Marine, que probablement que l'Amazonie peut être un exemple pour plein de choses en France, ici. De plein de points de vue, en effet, et on a vu, par exemple, la réappropriation de cosmogonie qu'on a effacée et injustement oubliée, pas tous d'ailleurs, d'un point de vue des luttes, des alliances, de plein de choses. En termes de droit, tu as l'air de réinvestir pas mal de choses qui existent en Amérique latine, et c'est très intéressant. Ce qui me permet de faire le lien, j'avais promis que j'en parlerais aussi, Dimitri de Boissieu, qui est un auteur qui était sur le festival tout le week-end, qui a malheureusement dû prendre un train à 16h et donc qui n'est pas à cette table ronde, mais qui est invité, est allé faire une enquête en Bolivie. Et en fait, j'en parle au moment où je parle des exemples, parce que la Bolivie me semble être un exemple à la fois très positif et très inquiétant. Puisque ce que Dimitri de Boissieu nous rapporte, c'est qu'il y a un moment donné, l'État bolivien a reconnu beaucoup de droits, a proposé beaucoup de choses et a dialogué vraiment au niveau étatique avec des peuples autochtones, a défendu une vision de la Pachamama relativement intéressante. Je ne suis pas tout à fait professionnelle de cette question-là, mais il semblerait qu'on s'accorde à dire que voilà, il y a une vraie défense qui s'est faite et un vrai intérêt qui s'est porté sur le concept de Pachamama, donc la terre-mère. Et puis, on voit ce qui se passe actuellement en Bolivie. Il y a eu un coup d'État super autoritaire. Et de toute manière, c'est là que c'est intéressant et que c'est ce que Dimitri me racontait hier quand on en discutait, qu'en fait, Evo Morales, qui était le président du gouvernement qui vient de se faire renverser, ça faisait bien longtemps qu'il était revenu sur les engagements qu'il avait pris. Et que sous couvert de joli gauchisme et de défense de la Pachamama, il avait autorisé un nombre terrible de projets extractivistes et qu'il amenait son pays dans une trajectoire d'industrialisation super violente. Et voilà, il y avait des projets, des grands projets à tout va d'infrastructures de toutes sortes. Et donc, je pense que... En Amazonie, il y a des exemples très intéressants de lutte et de manière de lutter. Mais il faut aussi porter attention au discours, parce que là, malheureusement, voilà, la Bolivie est un excellent exemple du vernis étatique qui peut être mis sur des politiques qui sont dangereuses. Ce livre raconte ça et je trouvais, enfin, c'est très intéressant. Je vous invite à le lire. Mais j'en parlerai pas plus parce que Dimitri connaît mieux son terrain que moi. J'ai regardé l'heure juste avant, je vous invite à répondre éventuellement à ce que je viens de dire, et puis ensuite on prendra volontiers les questions pour discuter de tout ce qui vient d'être dit.
Ce qui est intéressant avec le cas bolivien, c'est que donc ils ont effectivement édicté une loi sur les droits de la Pachamama, mais c'est une loi qui en fait reconnaît le caractère sacré de la terre, sans pour autant reconnaître la personnalité juridique, comme ce qui a été fait pour le coup en Équateur, ni reconnaître des droits particuliers et défendables en justice à la nature. C'est toute la différence avec ce qui se passe en Équateur, où en Équateur, il y a des procès qui sont intentés, qui demandent à faire respecter les droits de la terre-mère, les droits de la nature, et qui sont gagnés grâce à l'introduction des droits de la nature dans la Constitution. Et là, la loi pour la Pachamama, en fait, elle ne sert pas à grand-chose. Et pourquoi ? C'est aussi parce qu'ils sont dans un truc d'ambivalence, comme tu as dit. Ils sont dans une ambivalence. Ils autorisent des permis miniers extractivistes, destructeurs de la nature. Et pourquoi ? Est-ce que dans leur constitution, ils n'ont pas reconnu les droits de la terre mère. Par contre, ils ont reconnu que l'industrialisation et la vente des ressources naturelles doivent être une priorité de l'État. C'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'ils disent dans cette loi pour la Pachamama, qui a un caractère sacré. Bah, en fait, le modèle d'industrialisation de la nature, des ressources, l'extractivisme, en fait, c'est cette vision aussi, il faut extraire pour le bien-être de la patrie. Et bien ça, c'était à une telle outrance qu'en fait, ça annihile complètement les efforts de reconnaissance du caractère sacré de la terre-mère qui ne vaut pas grand-chose finalement face à l'objectif d'industrialisation des ressources. D'ailleurs, quand on dit ressources naturelles et que dans une autre phrase, on peut dire terre sacrée, c'est déjà qu'il y a un problème.
Ce qui rejoint la problématique plus globale finalement des questions de développement, c'est quelle voie on prend pour essayer que les populations vivent correctement. Est-ce qu'on suit la voie de ceux qu'on voit bien qui se sont plantés ou est-ce qu'on essaie d'inventer autre chose et que ça ne sert à rien d'essayer de courir derrière ce qu'on n'a pas encore fait, voilà.
Je vais parler un peu aussi sur l'Équateur et la Bolivie. En Équateur, déjà depuis l'époque de Rafael Correa, il y a eu pas mal de soucis parce qu'il y a eu une grande désinformation au niveau national. Il y a eu toutes les populations de Otavalo, Saraguro, les populations aussi d'Amazonie, chez les Chouars et les Sarayaku, qui clamaient que leur voix soit entendue à l'époque. Et il y avait, de la part du gouvernement de Rafael Correa, il y avait eu une magouille qui s'était faite au sujet de cette campagne pour sa politique de Chevron Texaco et de la Main Noire. À l'époque, quand lui avait fait cette campagne pour sa réélection, il avait envoyé 11 délégués pour vendre le 70% de l'Amazonie équatorienne à la compagnie Total France. Et donc, du coup, Total France avait appelé aussi quelques-uns de ses amis à pouvoir venir au banquet. Et il y a eu des activistes qui sont rendus justement pour cette transaction qui avait eu lieu, qui ont dénoncé ça. Et du coup, Total France est partie de cette transaction, n'a pas donné suite. Mais après ça, plusieurs fois, Rafael Correa a voulu tenter contre les populations autochtones en Amazonie. Et en Équateur, non seulement ce président-là, mais la mentalité des hommes politiques ou même des populations équatoriennes, c'est une mentalité très colonialiste, une mentalité qui renvoie les personnes à, déjà d'une, ne pas aimer l'autochtone, à être même honteux d'être autochtone, à être honteux et d'être de peau mat. Et ça, c'est un très, très gros souci quand on voit un peu partout, non seulement en Amérique, mais je pense même en Afrique, c'est pareil. Et donc, du coup, là... La résistance de nos populations, c'est plutôt que les gens chez nous se rendent compte que, avant tout, cette lutte pour l'Amazonie n'est pas la lutte seulement des autochtones. C'est la lutte de tout le monde. Et c'est justement ça qu'on voudrait transmettre, mais la désinformation est tellement puissante. Là-bas, les gouvernements avec les militaires et la police est tellement réprimante que les voix ne sont presque pas entendues. C'est pareil en Bolivie en ce moment, tout ce qui est en train de se passer là. Je me rappelle qu'en 2015, lors de la COP23, dans la région de la partie amazonienne, je ne me rappelle plus très bien, c'était Timni, c'était chez la région de Tipnis. Il y avait une dame qui avait vu venir les militaires dans son territoire, qui s'était présenté devant ses militaires, et le dirigeant s'est adressé vers elle en lui disant qu'il est un ami des populations locales et qu'il est venu par l'ordre de Evo Morales. Quand elle s'est retournée, Cet homme a pris sa matraque et l'a cogné à la tête. La dame est tombée par terre et du coup, l'homme lui a dit « ça, c'est la réponse ». Alors là, cette femme et la population locale dans le Tipni n'avaient plus confiance en Evo Morales. Parce qu'on dit « Evo Morales est en train de nous la faire à l'envers ». Mais nous ne savons pas, ou eux ne savaient pas à l'époque, que ce militaire, ou ce général, je ne sais plus exactement, lui était financé par l'opposition. Donc aussi, on parle beaucoup de magouilles d'État. Et en même temps, nos populations, Quechua et Maraguarani et autres, ne comprennent pas pourquoi le président Evo Morales s'est aligné avec les Russes et avec la Chine lors du G77. Ça aussi, pour nous, c'est un coup dur. Mais vu que Evo Morales, au pays, a comme réveillé quelque part ce sentiment d'appartenance autochtone, a réveillé dans les populations qui étaient opprimées, a réveillé ce sentiment d'être orgueilleux et trop fier, mais un peu trop fier, à ne pas vouloir écouter les autres. Là, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est les pleurs. Il y a beaucoup de pleurs en ce moment en Bolivie. Et les gens commencent à se poser des questions, à dire « mais nous étions autrefois très fiers avec Evo Morales, et maintenant, on vit un coup dur, et c'est quasiment impensable. » Alors vous voyez des populations Quechua et Mara, ils ont commencé à brandir la huipala, le drapeau de nos ancêtres, comme forme de guerre civile. Mais c'est là que les aînés viennent, disent « oh, calmez-vous ». Parce que la guerre civile n'entraîne que des catastrophes partout. Donc là, il y a une confusion en ce moment en Bolivie. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de aller soit à droite, soit à gauche, ne sait pas vraiment où aller, quoi faire. Il y a une désorientation. Et on a très peur parce que on sait que ce nouveau soi-disant président qui veut venir est un président. Il dit qu'il est le second Bolsonaro. Et il voudrait vraiment exploiter les montagnes ou les ressources naturelles, que bien sûr pour nous c'est du sacré. Parce que là, sont des entités ou même nos défunts ont été enterrés dans ces lieux-là, donc des endroits vraiment respectables. Et ce président veut commettre des choses absolument aberrantes. Lui et sa femme disent que les autochtones doivent retourner tous dans leurs montagnes et nous voient comme du bétail ou comme des sauvages, alors qu'elle-même et lui-même sont des métis autochtones, mais ils sont honteux de leur culture. Et ça, c'est la réponse de 500 ans de colonisation. C'est la réponse aussi de tout ce qui est venu avec l'indépendance en Amérique latine qui a apporté cette confusion aussi. Cette confusion de se associer à être citoyen de cette patrie. Et en s'occultant, ils ne voyaient plus qu'ils sont autochtones. Donc ils occultent, ils deviennent tellement fiers d'être nationalistes, et à la fin, ils vont contre leur propre peuple, et ils vont aussi contre le voisin, ou le pays voisin, que c'est la même nation autochtone. En fait, ils sont divisés, quoi. Et voilà, c'est tout ce que j'aimerais parler sur la Bolivie.
Merci beaucoup. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il reste suffisamment de temps pour échanger et prendre les questions. Je ne sais pas si j'ai un copain ou une copine. Non. Bon, je vais passer le micro.
Bonjour. Merci. Trois questions rapides parce qu'il y a beaucoup de... Mais la première, quelle est la définition d'un écocide ? Deuxièmement, est-ce que selon toi, et selon ta la définition que tu vas donner, il y a des écocides en France? Et troisième question, on a eu une réforme de la justice avec l'instauration des cours criminelles expérimentales. Est-ce que tu penses qu'on pourrait étendre la compétence juridictionnelle, donc en fait ça permet de disqualifier les notions de viol dans le cadre de ces cours criminelles expérimentales, à tester pendant 5 ans, c'est la durée de la cour criminelle expérimentale, les écocides?
Bon, merci beaucoup pour ces présentations. En fait, c'est un registre. Enfin, je vais juste faire un petit commentaire. C'est un registre. Voilà, il y a un registre juridique, on le voit bien. Puis il y a un registre qui parle aussi à notre être, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est-à-dire, comme tout ça, c'est à la fois des luttes pour les droits, mais c'est aussi des luttes pour la vie. Et alors, moi, la question que j'aurais posée, je suis aussi membre de Nature Rights, Marine, c'est OCA, mais c'est en fin de compte, pour moi, toutes ces luttes pour les droits de la nature et pour la reconquête, finalement, d'une culture, c'est lié aussi, finalement, à se rendre compte que c'est lié au buen vivir, c'est-à-dire à se rendre compte que en se reconnectant avec la nature, finalement, c'est pas juste pour défendre les droits, etc., de peuple, etc., mais c'est aussi pour nous-mêmes retrouver, enfin, tu l'as dit, retrouver des racines, retrouver un lien, finalement, aux écosystèmes, c'est-à-dire retrouver dans notre façon de vivre, je voudrais pas dire notre économie, mais enfin, voilà, nos activités de tous les jours, qu'elles soient plus complètement hors sol et qu'on respecte, finalement, parce qu'on fait partie de la nature, on est la nature vous êtes la nature qui se défend elle-même, c'est-à-dire que on peut pas vivre hors sol. Donc, en fait, ma question, ça serait voilà, quel est le lien avec ça, avec le ce qu'on appelle en Amérique latine le buen vivir, le bien vivre, et voilà, dans cette lutte, parce que ce n'est pas qu'une lutte juridique finalement, c'est une lutte écologique, c'est une lutte culturelle, mais c'est pas que ça, c'est une lutte tout simplement pour la vie, mais pour bien vivre nous. Donc peut-être c'est par ce biais-là que nous Français, Européens, etc., on peut se lier à ces luttes finalement en Amérique latine, Amérique du Sud. Pardon.
Ouais, c'est ça la réponse à la question juridique. L'autre, ça reprend plutôt ce qu'on a dit.
Merci pour la question, parce que c'est vrai que j'aurais dû la préciser en fait d'office. La définition qu'on défend, c'est donc l'écocide, c'est une atteinte grave, durable, irréparable ou irréversible et étendue à un écosystème, ou alors le dépassement manifeste des limites planétaires. Donc, ce qu'on entend par là, c'est les grandes pollutions, les marées noires, les désastres nucléaires, tout ce qui porte atteinte aux écosystèmes dans leur ensemble. Et en France, oui, il y a des écocides clairement en cours. Il y a donc l'orpaillage illégal en Guyane française qui détruit littéralement le territoire. Mais il y en a eu d'autres. À mes yeux, par exemple, le naufrage de l'Erika était un écocide. Et il y en a d'autres qui sont plus pernicieux. Mais par exemple, la mine d'or de Salsigne qui continue à polluer 15 ans plus tard l'ensemble des écosystèmes. Et qui va contaminer les enfants jusque dans leur cours de récré. Pour moi, ça, c'est un écocide aussi. En tout cas, c'est des atteintes graves, durables, et qui mettent à mal, finalement, le bon fonctionnement des écosystèmes. La Cour criminelle expérimentale, j'en ai pas entendu parler. En revanche, nous, ce qu'on demande, en fait, c'est que ça soit reconnu comme un crime devant n'importe quelle cour d'assises, finalement, en tant que... Et il y a des réflexions en cours autour de la création d'un parquet dédié aux questions écologiques. Puisque comme pour la criminalité financière, par exemple, c'est des sujets très, très précis. Et il nous faut des juges qui soient capables d'analyser tout ce qui se ressort. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, moi, je me suis retrouvée dans cette situation, par exemple, avec le cas de Total, avec le forage de Total en Guyane française. On a donc un forage commandité par Total, dont le siège social est à la Défense. On a donc le tribunal compétent qui était le tribunal de Cergy-Pontoise, qui est donc absolument pas au courant de ce qui se passe en Guyane française. Déjà, c'était très violent pour les populations locales que le procès ne soit pas mené en Guyane, puisqu'ils avaient l'impression d'être dépossédés de cette lutte. Et en plus de ça, on avait un juge qui n'avait strictement rien à faire de ce qui pouvait se passer de l'autre côté de l'Atlantique et qui a balayé tout notre argumentaire alors qu'il s'agissait d'un forage dans une zone particulièrement dense en termes d'espèces protégées, qui était une zone de nidification pour les baleines. Et ça, ça ne lui a pas... Ça le concernait pas, quoi, en fait. Donc, du coup, on a besoin de juges qui sont formés, d'un parquet qui est spécialisé. Et donc, oui, il faut expérimenter des nouvelles formes de justice, en fait, tout simplement, comme tu le proposes.
Alors, comment je pourrais expliquer ça? C'est vrai que parler sur la cosmovision, quand on veut parler à d'autres personnes sur les choses, le sacré, les choses importantes, on voudrait vraiment que que même les que les juges ou que les personnes importantes du gouvernement, qu'ils soient français ou d'ailleurs, puissent comprendre. Mais c'est là que quand viennent des aînés ou des hommes spirituels ou des femmes spirituelles, ils voient à travers eux et ils voient du vide et ils savent qu'il n'y aura pas de réponse. Juste en fait, il n'y aura rien. Et le point vivre, le bien vivre ensemble, c'est nous on dit que ça, principalement c'est un cercle. Et dans ce cercle, ça représente tout. C'est une spirale. C'est la spirale qui est interconnectée avec le tout, avec la spirale du cosmos. Tout est en forme de cercle. La Pachamama est en forme de cercle. Et dans ce grand cercle, on parle des six nations. Il y a les êtres humains, donc c'est une nation qui est alliée avec les minerais, avec les végétaux, les animaux, le monde des esprits, et l'autre, je ne m'en rappelle plus. Est-ce que c'est six ? Oui, je crois. Donc, on doit vraiment être lié tout ça pour être humain. C'est quand on est vraiment unis et au même niveau, alors nous sommes humains. Si nous ne sommes pas au même niveau, nous ne sommes pas humains. C'est ça qui est pas dit justement par nos populations. Et qu'on essaie de se retrouver ça, de réintégrer, de se réapproprier ces enseignements tellement sacrés qui ont été donnés par nos ancêtres. Le Buen Vivir, c'est un partage entre tous les peuples. On ne voit pas la couleur de la personne en face, parce que nous sommes tous du même sang. On dit que ce sang, c'est les rivières, que la mère terre elle-même, son propre sang, c'est le pétrole, que le gaz, c'est son souffle, que nous sommes la terre, nous sommes le cosmos, nous sommes tout, nous sommes alliés avec tout. Nous sommes infiniment petits et en même temps, nous sommes infiniment grands. Alors, c'est un partage vraiment avec le cœur. Et c'est un partage, comme vous voyez, les personnes qui sont vraiment alignées dans leur culture, à la recherche de la spiritualité, sont des personnes avec beaucoup d'ouverture. Des personnes qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont travaillé pour être humains, pour que leur humanité puisse briller. C'est justement ça dont il est question. Et quand ces personnes-là viennent pour défendre leur peuple ou défendre leur territoire devant les COP ou devant l'ONU, le répondant d'en face, parfois on voit qu'il n'y a principalement pas de répondant. Et ça, c'est une grande inquiétude. Alors que quand je rencontre des anciens chez nous, et on parle justement sur ce thème-là, est-ce qu'un jour il y aura un juge ou même un président qui soit vraiment ancré dans les choses ancestrales. Et eux me disent, ce serait bien d'ouvrir une université des populations autochtones. Après là, ça serait une bonne idée, quoi. Mais pour un juge qui soit vraiment dans cet alignement-là, ça irait à aller contre le système d'aujourd'hui. Parce que c'est un système d'aujourd'hui qui a été basé sur la colonisation et sur l'extirpation de la terre. C'est l'être humain qui ne veut plus être humain. Et ça, c'est un gros souci. On disait qu'autrefois, les animaux n'avaient pas peur de nous et nous respectaient, ne nous attaquaient pas, parce qu'ils savaient qu'on était comme eux, on était humains. Et maintenant, on est devenus plus humains, et nous sommes devenus des pires que des sauvages. Alors, c'est tout ça dont il est question. Ouais.
Alors le temps file, on va malheureusement prendre juste deux dernières questions, succinctes si possible.
J'ai une question pour Kunturumi, c'est ça comme le mois dernier s'est tenu un synode pan-amazonien pendant 3 semaines à Rome avant toute une démarche avec des milliers de personnes riverains habitants de l'Amazonie. Je voulais savoir si vous aviez été associé d'une manière ou d'une autre et si oui, comment vous l'avez vécu, parce que voilà, il y a une attention voilà, cette cosmovision et à qu'est-ce que ça peut apporter aussi, comment on peut s'en inspirer. Et bon, voir qu'une institution comme l'Église catholique, qui peut paraître si figée, s'intéresse à ça et cherche à cette inspiration aussi, voilà, me paraît intéressant, mais j'aimerais avoir votre point de vue à vous. Un synode, on me demande de préciser légèrement, c'est un rassemblement de plein d'évêques, de prêtres, de laïcs, de religieux, etc., qui voilà, réfléchissent. Et c'est un synode qui se veut, à partir de l'Amazonie, réfléchir sur le monde. C'est un peu comme vous disiez, gardien de la terre, c'est cette idée, en fait.
Oui, désolé pour la frustration. On va faire un peu participer le fond de la salle. Une dernière question.
Oui, ça change un peu de thème, mais nous, dans les pays dits développés, par rapport surtout à l'extraction minière, qu'est-ce qu'on fait de tous nos smartphones, tous nos éléments digitalisés, branchés, les ordinateurs, toute cette explosion d'équipements soi-disant miraculeux, mais qui met une pression énorme sur les ressources minières, l'or, par exemple, cuivre, métaux rares, etc. Voilà. Je pense qu'on devrait tous, nous, dans les civilisations dites développées, se remettre en question de manière très forte là-dessus.
Alors là, je vais aller sur l'histoire de ce que nous avons vécu avec l'Église de Rome. Ensuite, je vais donner après les détails. Mais je vais essayer d'aller vite. Quand l'Église catholique est venue en Amérique, c'était pas pour vraiment comme évangéliser ou ramener de l'amour. Ce qu'ils ont ramené, c'était plutôt beaucoup de violence, et beaucoup de traumatisme très très fort, très violent. Et tout ça s'est répercuté durant des siècles. Ils ont commis ça encore et encore et encore et encore, tous ces jours-là. Donc suite à tout ça, beaucoup de nos populations sont devenues très religieux. Et même, ils ont fait du syncrétisme, c'est-à-dire entre les deux. Et dans le syncrétisme, quand ils pratiquent leur syncrétisme, ils savent qu'ils pratiquent l'autochtone, quelque part. Donc ça va un peu en contradiction de l'évangile. Et les chefs qui sont venus à Rome, du Brésil, ses amis à moi, ils me racontaient, ils me disaient... On vient, mais on sait tout ça. On sait pourquoi on vient. On vient dans l'endroit où, je ne dirais pas le pire endroit, mais on vient dans l'endroit où est-ce qu'il y a eu le plus d'impact chez nous. On vient pour essayer d'apporter notre médecine et notre force, notre esprit. Puis, quand on parle du clergé, qui veulent comme défendre la nature, ou revenir dans des enseignements plus ancestrales. Pour nous, on le voit avec du recul. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand sont venus les jésuites, et je pense qu'il y avait les franciscains aussi, ils étaient venus pour, il y a 500 ans, même il y a 300 ans en arrière, ils sont venus pour faire ami avec les populations autochtones au départ. Mais ensuite, après avoir posé, écrit des livres et s'informer de toute la médecine et de toute la spiritualité d'une nation ou d'une communauté autochtone, eux fermaient le bouquin, ils envoyaient le bouquin au Vatican, et là venait la destruction. Et donc, tous nos savoirs sont partis au Vatican. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de peuples autochtones qui veulent aller dans la bibliothèque du Vatican pour retrouver, rechercher leur savoir ancestrale, mais le Vatican ne leur permet pas. Et ils ont comme volé une force très, très forte à nous. Parce que ça ne se fait pas quand même massacrer comme ça des peuples après avoir quitté leur savoir. Et c'est pour ça qu'on a un certain, un léger recul, on va dire. Un léger recul avec le Vatican. Mais ce sont des êtres humains. Après, on est tous humains. Il y a aussi des bonnes personnes, mais principalement, quand on voit leur énergie, certains ne sont pas vraiment dans l'ouverture. Ils sont plutôt dans... Voilà. Oui.
Ouais, pour l'anecdote, il y avait un leader chilien cette semaine à Paris qui recevait le prix de la Fondation France Liberté pour son action pour la protection de l'eau. Et il disait une anecdote marrante, ce qu'on dit au Chili, c'est que les premiers représentants de l'Église sont arrivés au Chili à cette époque. Dans leurs mains, il y avait la Bible. Et les autochtones avaient la terre, ils ont dit aux autochtones, commençaient à fermer les yeux et prier. Quand les autochtones ont rouvert les yeux, ils avaient la Bible dans les mains et les conquistadors avaient la terre. Et faut pas oublier, moi, en fait, il y a plus d'un an, on en parlait déjà de ce synode, j'avais rencontré l'évêque de Guyane à l'époque pour lui dire mon avis sur la question, parce que, en fait, ce synode, c'est le nom de ce synode, c'est aussi donner un visage. Quel visage, en fait, pour l'Église en Amazonie. Et j'ai trouvé que c'était très étrange comme façon de dire les choses, parce que j'ai l'impression que c'était donner un masque, en fait, à l'Église pour l'adapter au territoire amazonien. Et encore une fois, j'y voyais plutôt une forme d'opportunisme pour faire face à la montée de tout ce qui est, malheureusement, de l'évangélisme sur les territoires amazoniens. Et ça ne sert à rien de se faire concurrence sur un territoire qui a déjà autant subi, honnêtement. En Guyane française, c'était les Hommes indiens. C'est les internats catholiques dans lesquels on envoyait les Amérindiens qui étaient censés les acculturer, leur faire des petits blancs et leur donner la même tradition, la même coutume, les mêmes savoirs qu'aux blancs ici en Hexagone, ce qui a rendu ce territoire qui a été extrêmement violent, outre les autres violences physiques qui ont été exercées sur ces enfants dans les Hommes et qu'on sait aujourd'hui, c'est une violence culturelle. Et un ethnocide qui a eu lieu sur notre territoire et dont il ne faut pas nier l'existence, qui existe encore, exactement. Mais au-delà de ça, il y a l'Église, le pape, la semaine dernière, qui a pour une réunion d'ailleurs, des juristes de juristes en droit pénal qui demandent la reconnaissance du crime d'écocide. On a un soutien assez fort du côté de l'Église. C'est un pacte très concerné par la question du rapport à la nature. Et ça, c'est intéressant. Et pour juste conclure justement sur ce que vous disiez, notre responsabilité à tous vis-à-vis de l'écocide en cours sur notre planète, il faut savoir quand même qu'il n'y a que 8% de l'or qui est utilisé dans nos smartphones et dans la technologie. Le reste est utilisé en joaillerie et retourne dans le coffre des banques sous terre. Donc, on a effectivement une responsabilité, évidemment, quand on achète nos smartphones, mais on a aussi une responsabilité quand on a une alliance ou des bijoux en or. Et je vous invite vraiment enfin, c'est très personnel, mais moi, je n'en porte pas. Et je vous invite à en faire de même, parce qu'on ne sait pas d'où vient cet or. Aujourd'hui, il n'y a aucune façon de savoir d'où vient l'or, à part si vous avez des bijoux de famille, évidemment, c'est différent, mais... Si vous achetez et encore, mais si vous pouvez éviter d'acheter de l'or dont vous ne connaissez pas la providence, il y a 99% de chances que soit ça vienne du travail des enfants ou de la destruction de la planète. Donc, à éviter, à proscrire. Et il y a tout un tas de comportements comme ça sur lesquels il faut se poser les bonnes questions, justement, avant d'acheter des bijoux ou avant n'importe quel acte de consommation. En fait, on a tous la capacité justement d'influencer le cours des choses grâce à notre consommation et notre impact sur la planète.
C'est aussi parce que, par exemple, l'or, pour plusieurs populations, représente aussi la sagesse. Pour nous, l'or, c'est les larmes du soleil. C'est le bienfait que le soleil nous donne, ses propriétés. Mais il y a un grand problème, parce qu'autrefois, nos populations n'étaient pas des miniers. Nos populations disaient que eux, ils arrivaient à retirer l'or en sortant l'or de la terre, mais qui sort comme une fumée. Donc, le jour d'aujourd'hui, je pense que c'est pas faisable. Mais quand vous allez au Pérou, vous allez en Bolivie, vous allez acheter de l'or, ou même eux envoient de l'or à l'étranger. Alors que là-bas, les gens ne savent pas d'où viennent tous ces bacs, toutes ces choses en or. La majorité, ce sont des huaqueros qui vont dans les montagnes. Ils vont en Amazonie. Ils trouvent l'or ancien et ils le vendent entre 7h et 8h du soir dans les capitales ou à Lima, n'importe où. À la passe, ils le vendent ça en, par-dessous hein, à les fabricants de bijoux. J'ai des amis justement qui travaillent les bijoux, qui m'ont raconté qu'ils voyaient des huaqueros qui arrivaient. Et pour une plaque en or massif qui vient d'une culture très ancienne, Priyanka, il négocie sur ça. Et celui qui remporte la mise est content. Et ensuite, il le revend à un autre, qui le revend à un autre. Après, il le fonde et après, il fonde des bijoux. Mais on dit que dans ces matières-là, c'est sacré. Parce que ça a été mis par terre pour une cérémonie, pour des prières. C'est quelque chose de tellement sacré qu'il ne faut pas toucher. Et eux, ils sont venus et ils ont commencé à le fondre et à faire des bagues. Et avec ça, il y a une mauvaise énergie, une mauvaise intention déjà qui l'attend. Parce que c'est du vol. Et voilà, c'est ça qu'on parle.
Merci beaucoup à tous les deux de tout ce que vous nous avez raconté. Merci beaucoup à vous d'avoir été attentifs. Voilà, c'est la fin, il faut absolument conclure. Je vous invite, si vous avez été intéressé et si vous voulez aller plus loin, je fais de la propagande, hein, mais je suis responsable de rien, donc j'ai le droit de dire, ce numéro de la revue Z est excellent. De tout point de vue, je le trouve en tout cas franchement passionnant. Graphiquement, il est très beau en plus. Voilà, il reprend plein de questions qu'on a abordées. Et ce livre voilà, qui vient de paraître aborde aussi plein de thématiques dont on a parlé. Il y a tous les autres livres, bien sûr, qui concernent de près ou de loin les questions qui nous ont intéressés ce soir. Mais ces deux livres-là particulièrement, moi, me semblent intéressants pour poursuivre les réflexions qui ont été présentées ce soir. Je vous remercie.
XVIIe édition du Festival du Livre et de la Presse d'écologie, Felipe 2019.